Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Actes chapitre 2. Le thème qu'on va voir ce matin, c'est « Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par Dieu ?» On l'a chanté tout à l'heure, « Surprends-moi, surprends-moi ». Mais est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre ? Eh oui ! Tu peux mettre la diapo, voilà. Alors, on se rappelle, hein, un des signes sur lequel nous devons être vigilants, c'est cet enthousiasme. Après, nous avions vu ces 4-1-2, ces 4 repères, marquez-les bien dans votre Bible. Ça, c'est... Si à un moment dans notre vie, on dit « Mais où est-ce que j'en suis ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe ?» Évaluons notre cœur. Est-ce que je suis pas dans une situation de dureté ? Est-ce que je suis pas dans une situation d'incrédulité ? Est-ce que je suis pas dans un esprit d'indépendance ? Est-ce que je suis pas dans un esprit de désobéissance, de rébellion, de résistance, de mauvaises habitudes ? Après, nous avions vu, après les barrages, que Dieu a véritablement des projets. Est-ce qu'on veut les rentrer dedans, mais sans arrière-pensée ? Oui, on veut tous rentrer dans les projets de Dieu, mais de temps en temps, il y a des peurs, il y a un esprit de découragement, on se sent comme des sauterelles. Alors, la semaine dernière, nous avions... revue, ses expressions et ses promesses et ce que nous sommes, si Dieu est et que nous l'adorons pour ce qu'il est, nous sommes aussi quelque chose, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne regardons pas à gauche, à droite, vous êtes l'instrument de bénédiction que Dieu a choisi.
Amen.
Voilà.
Amen.
Vous avez la réponse à votre vie. Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Je veux que tu sois un sujet de bénédiction.
Alléluia.
Alors si on n'est pas cet instrument, si on n'est pas cet outil, alors effectivement, on finit par dire « Mais je sers à quoi ?» Mais comme Paul avait été choisi, il est un sujet de bénédiction. Nous sommes l'instrument que Dieu a choisi. Tout ce que le Seigneur attend de notre part, pardon, revient sur la diapo d'avant, c'est que nous puissions répondre au Seigneur, « Seigneur, me voici. » Je ne sais pas pourquoi faire, mais Seigneur, me voici. Et ce matin, la question qui va nous interpeller, être le fil conducteur de notre réflexion, c'est sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par Dieu. Alors lisons Actes chapitre 2. On peut mettre la diapo d'après, oui d'ailleurs, c'est le texte d'introduction et d'exemple. L'exemple de la Pentecôte. Nous nous revendiquons de la Pentecôte, non ? Je crois que c'est écrit Église évangélique de
Pentecôte.
Alors, on va lire de quoi nous nous revendiquons. Ben oui, c'est important. Si on dit on a la Pentecôte, il y a mis une référence. Alors Actes chapitre 2, lisons ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. C'est déjà un bon signe. Dans le même lieu. Ah oui, parce que j'entends, il y en a qui disent « Je suis avec vous en pensée ». Mais non, c'est pas suffisant. Il faut être aussi ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là aussi, hein, c'est pas la position physique qui est plus ou moins spirituelle. Hein. Verset 3. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ?» Alors, on va aller directement au verset 11, après l'énumération des différents pays. Verset 11, « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Drôle d'ambiance, hein ? Chaque fois que je lis ce passage, j'ai du mal à imaginer que les disciples qui attendaient, parce qu'en fait, ils étaient rassemblés au même lieu. Pourquoi ? Parce que Jésus leur avait dit de le faire. Seigneur. Ça, c'est un des premiers principes spirituels évidents. L'obéissance est la chose la plus importante. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et je pense sincèrement que quand ils étaient là, ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Nous, on lit ça, on lit la Pentecôte, les flammes, le parler en langue, les prophéties, le feu, on a chacun des expressions. Ah oui, il y a le Seigneur qui est là, on sent sa présence. Mais eux, ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Et ce jour-là, ça leur est tombé comme ça, pouf. Et je me demande même si ce n'est pas à leur avantage qu'ils ne sachent pas ce qui devait se passer. Est-ce que si on leur avait dit, oh ce matin, mais tout le monde va vous prendre pour des gens complètement ivres. Je parle de manière polie, hein. Vous allez courir, vous allez crier, vous êtes tellement crié dans le lieu où vous serez que tout le quartier sera au courant. Oh là là, mais attends, c'est le Saint-Esprit ça? Non, non, mais c'est n'importe quoi ça. Vous allez parler dans les langues que vous connaissez pas. Oh non, mais attends, hé, oh, on ne va pas rentrer en transe. Vous allez parler des merveilles de Dieu. Je sais pas si ça a duré 5 minutes. Je pense que sincèrement, s'ils avaient été informés avant de ce qu'ils allaient vivre, ils se seraient bien refroidis, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'ambiance de nos rassemblements? Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Je dis bien que nous ne vivons pas forcément, et je ne sais pas si on a déjà vécu. Personnellement, je n'ai jamais vécu ces flammes de feu, je n'ai jamais entendu ce vent impétueux. Mais la deuxième question surtout que je voudrais me poser et nous poser, est-ce que nous serions prêts à vivre, et pardonnez-moi l'expression, mais un tel débordement? C'est ça la vraie question à se poser. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on va vivre la même chose. Et on va voir, hein, tous les exemples qui sont dans la parole de Dieu ne sont pas là pour qu'on vive exactement la même chose. Amen. C'est pas le but. Mais la question qui nous est posée au travers de toutes ces expériences, c'est est-ce que nous serions prêts à vivre ce genre, pardonnez-moi l'expression encore, hein, j'essaie de nous provoquer, ce genre d'atmosphère? Est-ce qu'il n'y aurait pas des grincements de dents, des regards méfiants? Est-ce qu'on ne commencerait pas à sortir de ce genre? Oh, c'est n'importe quoi! Mais sincèrement, hein, moi-même en tant que pasteur, je ne sais pas comment je réagirais, sincèrement, je vous le dis. Par contre, il y a une chose qui est dans mon cœur, en tant qu'homme, en tant que pasteur, en tant que même que papa. C'est que je préfère rouspéter ma fille parce qu'elle a trop de vie que quand elle est malade au lit et qu'il y a le silence de la mort à la maison. Comment je veux dire? Et dans l'église de Jésus-Christ, en tant que responsable, je préfère demain avoir des soucis de débordement du Saint-Esprit que le silence de la mort. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit rechercher ces débordements, on doit rechercher ces expériences. Et ça va être, je veux vraiment que ce soit clair dans notre esprit. C'est vrai que depuis des semaines, on s'encourage à ce renouvellement, etc. Mais nous ne recherchons pas les expériences, mes bien-aimés. On recherche la présence du Seigneur.
Amen, amen.
On ne recherche pas des excitations, on ne recherche pas des émotions, on ne cherche pas du brouhaha. Ce qu'on recherche, c'est la présence du Seigneur. Et là où il y a la présence, alors il y a de l'effet. Mais c'est tellement important qu'on ne cherche pas non plus à nous accrocher aux fruits au lieu de nous accrocher aux cèpes. Parce que n'importe qui serait accroché aux fruits, le fruit finit toujours par... Et nous, on tombera avec. Et c'est bien souvent ce qui s'est passé dans plusieurs églises où ils ont vraiment mis l'accent sur les dons, sur la démonstration, sur les exubérations même, sur les extravagances, croyant que là où il y a cette manifestation, alors il y a forcément la grâce de Dieu. Non, 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 non. Dieu est celui qui va opérer et qui va nous saisir par rapport à notre foi. Si nous nous attendons à de grandes choses, le Seigneur nous fera vivre de grandes choses.
Amen, amen.
Mais ce n'est pas les grandes choses que nous devons rechercher, c'est le grand Dieu.
Amen.
Et c'est lui. C'est lui que nous devons rechercher, c'est sa présence, c'est son amour, c'est sa sanctification, c'est sa présence. À Corinthe, il leur manquait aucun don extraordinaire. Mais Paul, il a sorti la baguette. Parce qu'il y avait des situations de non-sanctification qui étaient graves. Il vient pas leur dire, oh, parce qu'il y a tous ces dons spirituels, alors il y a l'approbation de Dieu dans votre vie. Ça n'a rien à voir. Un don, c'est un don. Ce que nous devons rechercher, c'est l'approbation de Dieu dans notre vie, par notre sainteté, par notre amour, par notre attachement. Et c'est ça que nous devons rechercher. Il faut aussi que nous relativisions. C'est vrai que pour se dire, oui, c'est vrai, on est église de Pentecôte, et par rapport à ce qu'on lit, on ne vit pas grand-chose. Il faut que nous relativisions, pour ne pas tomber dans, justement, les accusations du malin. Vous savez, entre acte 2 et acte 8, acte 8 c'est encore un temps où l'église est visitée, il y a 8 ans. Et entre acte 2 et acte 19, qui est encore un lieu de la manifestation de Dieu par cette manifestation, il y a 25 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est la Pentecôte tous les jours. Que tous les jours, ils vivaient des choses extraordinaires, que tous les jours, c'était les murs qui tremblaient, que c'est tous les jours que le Saint-Esprit tombait sur les gens comme ça et qu'il y avait une conviction. Mais non. C'est pas tous les jours. 8 ans, 25 ans, c'est long, hein. Il faut d'entendre que nous prenions un peu de recul, à nous dire, mais ces événements qui se sont passés, nous, si on ne les vit pas, c'est qu'on n'est pas bien. Rien du tout de tout ça. C'est que Dieu n'est pas un Dieu de spectacle.
Amen.
Mais il est celui qui marque les temps. Le jour où nous sommes donnés au Seigneur, c'était fort, n'est-ce pas? Oui. C'était fort. Mais c'est normal que ce ne soit pas tous les jours aussi fort que le premier jour. Le jour où vous avez rencontré votre époux, c'était fort, hein? C'est pareil aujourd'hui?
Oui, oui.
Vous êtes très amoureux. Mais ça changeait quand même, non?
En mieux, oui.
En mieux, alléluia, tant mieux. Il y en a un qui, hein, il branche le carreau, là. Mais ça change. Et spirituellement, nous pouvons vivre des expériences fortes dans notre vie, mais ce n'est pas la force de l'expérience que nous devons rechercher, mais c'est l'attachement au Seigneur.
Amen.
La vie avec
Amen.
Le Seigneur. La question que nous devons nous poser par rapport à acte 2, par rapport à tous les autres événements qui se sont passés dans la parole de Dieu, par rapport à notre Église, c'est de dire, est-ce que Dieu a véritablement toute la liberté d'agir au milieu de nous? La vraie question, c'est vraiment de se poser ça. On ne doit pas se dire, est-ce que c'est bien ou pas bien de vivre, c'est pas ça. Mais est-ce que Dieu a la liberté d'agir? Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec l'histoire. Parce que ce que nous sommes est forcément le fruit d'une histoire personnelle, d'une histoire de contexte de France, d'histoire locale. On n'est pas le fruit du hasard comme ça, on porte toujours une histoire. Et nous avons été marqués. De manière générale, je ne connais pas forcément l'histoire locale de la ville d'Anceny. Mais de manière générale, dans le mouvement de Pentecôte, a été marqué par des expériences fortes, des renouveaux, des visitations particulières. Et dans ces débordements, il y a eu des exagérations, des laissés-faire. Et là, il y a eu des dérapages. L'histoire a montré que devant ce genre de débordement que nous n'avons pas forcément bien géré en son temps, alors on a pris une autre politique. Maintenant, on cadre bien. Maintenant, on évite même le débordement, comme ça, s'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de tâche. Si on ne met pas le feu sous le lait, il ne va jamais déborder. Mais il ne va jamais non plus chauffer. Et historiquement, on sait que dans nos églises de Pentecôte, alors oui, ça a été une force. Surtout, alors je ne fais pas de la pub, hein, c'est un rappel historique. Dans les mouvements des assemblées de Dieu, il y a eu cette force à toujours être fondée sur la parole de Dieu. À toujours vouloir que l'expérience soit conforme à l'Écriture. Et c'est une bonne chose et ce le sera jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais il ne faut pas non plus aller en deçà de la parole de Dieu.
Tout à fait.
Et se dire, oh, si ça va un peu trop loin, comment ça va se passer? Ben, ça va se passer, c'est pas grave, on va gérer. Vaut mieux avoir un enfant qui a trop de vie qu'un enfant qui est mort.
C'est sûr.
Et malheureusement, à vouloir tantôt trop retenir les portes, dans quelques églises, même la main de Dieu n'a plus la place pour passer, quoi. On ferme, oh, on ne sait pas trop ce que ça peut amener, alors on ferme et puis même on ne distingue même plus qu'il y a même le doigt de Dieu qui est là, qui, oh, je voudrais rentrer moi, mais Non, non, c'est comme ça, la culte. Pas plus que ça. Et oh là, et toi, tu parles pas trop fort. Et toi, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc louche, là. Rappelons-nous en Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, ne lisez pas, c'est l'histoire de, vous savez, quand le peuple d'Israël est prêt à passer dans le pays promis. Ils ont juste cette montagne à traverser. Comment ça, on a vu hein, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu rentrer. Et notamment, là, on s'est dit, mais c'est quand même étonnant. Il y a 10 personnes qui sont remplies de découragement et tout le peuple les suit. On se dit, mais si. Moi, j'aurais été Dieu. J'aurais tapé le poing sur la table. Amen. J'y suis comme ça, on y va maintenant. C'est qui le boss ici? Oh! Allez, réveillez-vous. Hein. Je veux plus vous entendre pleurer. D'ailleurs, quand ils étaient devant la mer Rouge, il a parlé un peu comme ça à Dieu. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il dit, taisez-vous et marchez. Il aurait pu dire la même chose. Taisez-vous et marchez. Mais on va voir que ce n'est pas la même situation. Bref. Et on peut se poser la question, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Parce qu'il savait très bien que s'il ne rentrait pas, le plan B, c'était vous allez marcher 40 ans dans le désert, vous allez tous mourir. Il n'y a que Abel et Josué qui vont traverser. Et puis tous les autres, là, vous avez refusé. J'ai vu refuser, ben vous allez mourir dans le désert que vous avez choisi. Il a juste fait la promesse pour Caleb et Josué. Mais pourquoi est-ce que Dieu qui savait que s'il ne passait pas, ça allait être pire, que Dieu qui savait toutes les promesses qu'il avait données, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tapé du poing pour dire « Allez, maintenant, levez-vous et allez-y, bon sang !» Parce que Dieu ne nous forcera jamais à aller là où nous ne sommes pas prêts à aller. Jamais, mes bien-aimés. La question première, sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par Dieu? Je suis assez persuadé que dans votre cœur, je dis « Oui, amen !» Et surprendre jusqu'à quel niveau? Surprendre jusqu'à quel niveau? Il y a plein de, par exemple, d'exemples dans la Bible, bon, on va y venir tout à l'heure, hein. D'expérience qu'on aime bien se rappeler, la traversée de la mer Rouge, l'eau qui sort du rocher, les paralytiques qui se relèvent, les malades qui sont guéris. Ah, sans dire alléluia, alléluia. Mais on va voir tout à l'heure toute une série, je me suis amusé à relever d'autres expériences spirituelles. Vous me direz si vous voudrez vivre ce genre de choses. Parce que la vraie question, c'est jusque où est-ce qu'on est prêt à se laisser surprendre? Jusque là où nous, on est capable de dire « Bon, ben, Seigneur, on te laisse agir, mais comme ça, hein, c'est tout. Hein. » Ou est-ce que nous serions prêts à vraiment nous laisser surprendre? Se laisser surprendre, c'est nous laisser étonner. Donc ça veut dire que même dans des domaines où on ne s'y attendait pas, est-ce qu'on le laisserait faire? Et c'est là la question qu'il faut vraiment. Et le but de ce matin, c'est pas de dire ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça, mais c'est se dire est-ce que je suis prêt à me laisser interpeller? Amen, amen. Est-ce que si ce soir, si je rentre dans ma chambre, si je prie, est-ce que je pourrais revivre acte 2 dans ma propre chambre? Parce que c'est arrivé. Des gens qui sont venus, ils disent « Seigneur, je vais être baptisé dans le Saint-Esprit », ils sont allés à l'église, ils ont réclamé, ils n'ont rien reçu, ils sont rentrés chez eux, « Seigneur, je ne ferai pas de cette chambre, je vais baptiser dans le Saint-Esprit !» Et 2 heures après, ils continuent encore à parler en langue. Et dans la maison, on écoutait « Oh, c'est quoi ça? C'est bizarre !» Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre jusqu'à ce niveau-là? Et d'autres niveaux, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si nous disons vouloir une nouvelle Pentecôte, si nous disons vouloir un renouvellement spirituel, est-ce que nous disons aussi « Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, sers-toi de ma bouche.
Amen.
Sers-toi de ma prière. Sers-toi de ma présence. Seigneur, je veux vraiment être disponible, être disposé. » Si nous disons « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je voudrais tellement vivre plus. Seigneur, je voudrais tellement. » Est-ce que nous sommes prêts à sortir de notre confort, tout simplement? Dieu sait qu'il ne nous permettra pas d'aller plus loin que là où nous ne pouvons aller. Il ne nous forcera jamais. Non pas parce que ce serait une sorte de punition, mais tout simplement parce que si nous ne sommes pas prêts dans notre cœur à aller plus loin, si Dieu nous y forcerait, ce serait notre mort. Je prends un exemple simple. Qui, ce matin, est prêt pour monter sur le mont de l'Himalaya? Personne. Et ce serait une folie si je commençais, mais vous manquez de foi, allez, on part demain matin, rendez-vous lundi matin à l'aéroport, on monte. Qu'est-ce qui va se passer? On va tous mourir.
C'est sûr.
Parce que pour monter sur le mont Himalaya, il faut un minimum de préparation. Et c'est le thème que je voudrais qu'on amène ce matin. C'est que si Dieu ne nous forcera jamais, la question n'est pas de savoir si je suis capable aujourd'hui ou pas, mais la vraie question c'est de savoir est-ce que je le veux en fait. C'est pas grave si aujourd'hui, ce matin, on n'est pas prêt à monter sur l'Himalaya. Mais la vraie question c'est de dire, mais est-ce que c'est notre aspiration? Est-ce qu'on le veut en fait? C'est pas grave si aujourd'hui on ne connaît pas ce débordement, cette grâce, cette vie abondante avec le Seigneur. Si c'est vrai, on est pauvre en dons spirituels. C'est pas ça le problème. Le problème que Dieu voit dans notre cœur, c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Et si on le veut, alors Dieu nous fera la préparation pour y aller. Dieu nous fera cette préparation pour y aller. Il faut qu'on lui laisse la carte blanche. Alors vous savez, avant de dire, allez, on va grimper sur l'Himalaya, bon, il faut s'entraîner. Vous savez, souvent, dans ce genre de projet, les gens sont tout de suite, au début, très enthousiastes, n'est-ce pas? On a tous eu un peu des défis comme ça. Ah ouais, on va faire ça, c'est trop bien! Et puis on s'aperçoit que c'est bien souvent dans la préparation qu'on commence à dire, oh non, je peux plus y aller, non, j'en peux plus, c'est trop dur. Enfin bref, hein, on a tous vécu un peu ce genre de démoralisation alors qu'on était en préparation pour un objectif. Et c'est tout à fait normal, parce que ça fait aussi partie de la préparation. Dieu va éprouver notre obéissance, amen. Dieu va éprouver notre faim, Dieu va éprouver notre soi. Et le temps de la préparation dans l'Himalaya n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Et spirituellement, c'est pareil. Alors, là aussi, je veux dire vraiment, c'est quelque part c'est pour nous amuser, mais également un peu pour nous enseigner. Parce que si nous voulons dire, Seigneur, je suis prêt, on veut aller plus loin avec toi, Seigneur, on veut ce renouvellement spirituel, on veut cette nouvelle Pentecôte, alors sachons qu'on risque de vivre acte 2 avec des débordements. C'est nécessaire, j'ai presque envie de dire. C'est presque nécessaire pour réajuster après. Les épices étaient là pour ça. N'était que le réajustement de choses qui se passaient dans les assemblées. Et puis rappelons-nous aussi que là où le bon grain est semé, l'ivraie aussi sera semé. Alors il y aura toutes ces choses à gérer. Mais je me suis quand même amusé à relever dans la Bible quelques situations où on pourrait se dire, mais c'est pas possible, ça vient pas du Seigneur ça. Ça vient pas du Seigneur, c'est... En 1 Samuel, chapitre 19, versets 20 à 24, je vous cite les références, vous les lire à la maison. Il nous est parlé de Saül, ce premier roi qui a été et choisi par Dieu et par le peuple. Et voilà que Saül, il commence un peu à dérégler, à faire n'importe quoi. Et puis il va vers le prophète, et là il rencontre un groupe de prophètes. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer le détail de chaque chose. Mais là, il nous est dit que le Saint-Esprit tomba sur lui. Il fut saisi. Il se mit à prophétiser. Ah oui, ben là, on connaît, là, on maîtrise. Là, on sait ce que c'est. Et il se met tellement à prophétiser qu'il commence à se mettre tout nu. Et quand il se jette, il commence à se jeter par terre tout nu. Oh, c'est pas possible, c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Pas le Saint-Esprit. Ça c'est mauvais signe, c'est pas normal. Le Saint-Esprit ne ferait pas une chose pareille. Ézéchiel, un prophète choisi par Dieu, voilà que Dieu lui dit, bon, Ézéchiel, voici le programme pour l'année à venir. Tu vas rester couché pendant 390 jours, ça fait 13 mois. Donc tu vas rester couché pendant 13 mois sur le côté gauche. Et puis après ces 390 jours, tu vas te mettre sur le côté droit. Là aussi, tu vas rester 40 jours. Et puis pour nourriture, tu boiras 1 litre d'eau par jour, pas plus.
Je te concède de manger des galettes cuites sur des excréments.
Mais c'est pas possible, Dieu peut pas demander des choses comme ça. C'est le malin, ça. Mais oui, c'est pas normal.
Oser.
Chapitre 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. Première fois. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Je vous promets, si vous me dites ça une fois là, en tant que pasteur, là, je suis cuit. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prenne une prostituée. Oh là 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 là. Et quel souci vous allez me procurer là. Dans Ésaïe.
Ah, Ésaïe, c'est un gars sérieux quand même, non?
Là, les autres, ils sont un peu bizarres, mais lui, Ésaïe, hein, Ésaïe, c'est un sérieux quand même. C'est pas n'importe quoi, Ésaïe. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins, ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, il obéit, et il marcha nu et déchaussé. Ok? Ésaïe, le prophète, il se promène tout nu. Est-ce qu'on est prêt à nous laisser surprendre? Ah, c'est là qu'on commence à dire, ah, l'entraînement, d'accord, mais là, là, Benoît, tu nous dis quoi, là? Alors, je recadre. Tous ces hommes de Dieu, ces prophètes, incarnaient le peuple de Dieu. Et en fait, en leur personne, ils vivaient ce que le peuple d'Israël allait vivre. Dans le cas d'Ézéchiel, effectivement, les jours correspondent à des années. Les excréments, c'est malheureusement ce que le peuple va vivre sous l'oppression. Il faut comprendre dans le cas de Samuel que ce n'était pas un désir de se mettre tout nu, qu'il y avait trop chaud, mais on doit comprendre l'expression d'une conviction de péché et une expression d'humiliation. Dans le cas de Osée, quand il s'associe à une prostituée, il incarne le peuple d'Israël qui s'est prostitué. Dans le cas d'Ésaïe, effectivement, le peuple, 3 ans après, sera tout nu en déportation. Donc, comprenons les choses, d'accord ? Et bah, même pas venir la semaine prochaine tout nu avec une prostituée à la main, dire le Seigneur m'a parlé. Ah oui. Mais c'est tellement important aussi de recadrer l'enseignement de la parole à l'autorité. Parce qu'au nom de la parole, on peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que Dieu a institué l'Église, pour nous encadrer, pour nous encourager. L'obéissance est une chose. C'est pour ça que Paul lui-même, est-ce que Paul était un homme renouvelé, rempli de l'esprit?
Oui.
Un peu quand même, hein? Oui. Eh bien, c'est le même qui va nous encourager à avoir cette liberté. Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté, mais il va aussi dire d'être soumis aux autorités. Amen. Il y a un équilibre à avoir. On peut parler aussi d'Élisée. Élisée, il y a un endroit comme ça, on lui demande de prophétiser, il dit « Ok, amenez-moi de la musique ». C'est pas spirituel, c'est charnel ça, mes frères. Il y a la musique, le gars il inspire, c'est charnel. Pourquoi est-ce que je vous dis tous ces exemples-là? C'est parce qu'il faut que nous réalisions que bien souvent on cloisonne la vie de l'esprit.
C'est vrai.
On la cloisonne. Sous prétexte que ça nous dérange, sous prétexte que c'est pas dans nos repères, sous prétexte que c'est pas selon ce que nous on s'attend de l'action du Saint-Esprit, alors tout ce qui ne rentre pas dedans, on l'exclut.
C'est vrai.
Du genre, et du coup, le Seigneur il toque, il dit oh, je voudrais rentrer. Oh là là, tu me demandes un truc, c'est pas normal. Et c'est comme ça que peut-être même au milieu de nous, il peut y avoir des gens qui sont assis dans le même lieu, mais qui vivent les choses complètement différemment. C'est déjà arrivé. Bon, c'est encore cette semaine, j'ai entendu deux témoignages. Bon, ça fait sourire quand on est là. Une personne dit « Oh oui, mais c'est pas normal ce qui se passe, gna 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 gna, j'étais blessé, c'est pas gna. » Et puis 2 jours après, je rencontre quelqu'un qui dit « Ah, oh, c'est formidable, Élie, je suis béni, etc. » c'est bizarre quand même. L'un qui dit « C'est pas du Seigneur » et l'autre qui dit « Vraiment, je suis renouvelé par le Seigneur. » Pourquoi? Ce sont les dispositions de cœur, c'est
Amen.
Tout. C'est pour ça que tous les critères que Dieu nous a donnés, ce sont des critères qui nous ramènent à nous-mêmes, à nous examiner. Le Seigneur veut la bénédiction, il veut. Mais quel barrage est-ce qu'on va mettre? Quel barrage est-ce qu'on va mettre? Dans le Nouveau Testament, il y a des choses aussi un petit peu bizarres, vous savez. Philippe, télétransporté.
Oui.
C'est fort, on fera des économies de gasoil, là.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que parce que Philippe a été transporté, est-ce qu'on va commencer à dire « Seigneur, télétransporte-moi, tout moi et toute ma famille à la maison !» C'est bien, au moins, il y aura plus de monde à l'église plus longtemps, hein. Bon, ça peut être aussi le sens inverse. Oh frère, je viens pas à la réunion, le Seigneur m'a pas télétransporté. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être ça votre excuse. Hein. Agabus. Un prophète. Alors, en plus, j'ai, dans ma lecture suivie, j'ai lu ça hier. Là aussi, c'est quand même incroyable. Paul va dans un foyer, accueilli par Philippe, un évangéliste. Il a 4 filles qui prophétisent. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Que le Seigneur nous donne des enfants qui prophétisent et que nous soyons des évangélistes. Il a une dream team, 4 personnes qui ont l'inspiration pour prophétiser. Et parmi les 4, il n'y a personne qui prophétise. Par contre, il y en a un, il s'appelle Agabus, il est de passage et lui prophétise sur Paul. Ben, les autres, vous avez quoi? Vous avez dormi? Non, 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 mais les dons, qui en est maître?
Alléluia.
Et Agabus, il ne se contente pas de dire « Oh, le Seigneur me dit, Paul. » Il voit une ceinture. Et voilà qu'il commence à mimer. Il s'attache les pieds, les mains, je ne sais pas comment il mime. Mais en tout cas, avec la... il dit « Ouais, le Seigneur, il va me mettre en prison, il va enchaîner. » Et c'est la chair, ça. C'est les gens qui cherchent à faire du spectacle, de l'émotionnel. Le Seigneur, il n'a pas besoin de tout ça. Ah! Donc nous, on met une cloison au Seigneur. On dit au Seigneur, c'est comme ça que tu agis, c'est pas autrement. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre par le Seigneur? Ce sont des exemples. Je ne dis pas que ça se passera forcément comme ça. On est d'accord? Parce que tout à l'heure, je connais les arguments que le diable, c'est de mettre... Ah oui, mais c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament aussi, il y a des choses surprenantes. Et comment est-ce que nous aurions réagi, agi en Actes chapitre 5? Lorsque un couple s'est juste accordé pour mentir un peu.
Oui.
De temps en temps, je me dis, tu sais, je veux être un pasteur dur. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pensé si on avait été à cette réunion où le mari vient, il meurt. La femme vient et dit, est-ce que c'est bien ce prix-là? Oui, oui. Comment est-ce que vous avez pu vous accorder pour mentir au Saint-Esprit? Ceux qui ont enterré ton mari viennent te chercher maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait pensé? Est-ce que, avec nos raisonnements, nos conceptions personnelles, nos non-attentes ou nos certaines attentes catégorisées, est-ce qu'on n'est pas en train de dire oui Seigneur, on veut vivre la Pentecôte, mais quelque part on s'en donne intellectuellement, moralement, pas du tout les moyens, parce qu'on veut pas que ce soit autrement que ce que l'on vit réellement en fait. Ou alors on voudrait que ça se passe, mais comme nous on considère que les choses devraient se passer. On va lire un texte tout à l'heure qui dit que les pensées de Dieu sont tellement au-dessus de nos pensées. Tellement au-dessus. Et si nous voulons vivre un renouvellement spirituel, il va falloir qu'on donne du lest. Quelques semaines, on a prêché sur « Nous devons être des montgolfières ». Ce feu à l'intérieur qui apporte de l'air chaud et qui élève nos âmes. Mais il suffit juste qu'il y ait quelques cordes pour nous retenir au niveau du sol. Et dans nos raisonnements, dans nos cloisonnements. Et malheureusement, j'ai connu des situations où des chrétiens étaient littéralement mais tétanisés, effrayés, parce que voilà, quelqu'un est venu dans l'assemblée et puis on a commencé à prêcher l'évangile et voilà que quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit commence à gesticuler, à tomber par terre. Alors bien sûr, ça peut surprendre. Mais quand on voit, t'entends la réaction de quelques chrétiens, en l'occurrence ce jour-là, je dis, mais vous y... Certains même, mais non, on ne savait même pas que ça existait. C'est pas possible. Et si demain,
Un démon s'agite au milieu de nous. Enfin, quelqu'un qui est agité par un mauvais démon le fait agiter. Comment on va réagir? On va tous fuir, là. Les gens à nos courses, on va recommencer à tous intercéder au nom de Jésus-Christ pour que les chaînes soient brisées, pour qu'il y ait une libération. C'est arrivé que sous prétexte que sous ce débordement d'émotions, il y ait des réactions, oui, émotionnelles, qui s'expriment. Et on a tous nos débordements émotionnels, non? On les fait peut-être pas toujours en public, mais on sait ce que c'est. Quand un choc émotionnel, quand un débordement nous touche, non? Vous êtes tous super stoïques dans ces moments-là? Alors, il arrive! Il est arrivé, j'espère que ça n'arrivera pas ici, mais ça arrivera sûrement ailleurs. Que certains regardent de travers, oh là, c'est bizarre ça, c'est suspect! Ça vient pas du Seigneur ça! C'est comme ça que dans une même réunion, dans un même rassemblement, certains sont littéralement bénis par le Seigneur. Et certains ressortent avec un cœur dur, fermé. Les ont été tellement bénis que même leur âme a été guérie, restaurée, leur corps a été sanctifié, guéri. Comprenez comme ça. Et certains viennent, sortent, viennent. Ils sont là. Ils comprennent même pas pourquoi les autres sont bénis et eux disent, pourtant, il n'y avait rien ce matin, moi j'ai rien senti. Parce que ce n'est pas sur l'ordre du ressentiment que l'on vit une vie spirituelle, mais c'est sur le domaine de l'esprit.
Amen.
C'est spirituellement qu'on se prépare, ce n'est pas émotionnellement. Et émotionnellement, on peut être complètement au ras des pâquerettes. Et ce jour-là, le Saint-Esprit se servira de nous pour ouvrir notre bouche et prophétiser.
Oui.
Alléluia.
Alléluia.
Et on ne voulait même pas aller à la réunion parce qu'on n'était pas dans nos baskets. Parce que ce jour-là, justement, ça n'allait pas. Parce que cette semaine même, on a même gaffé avec le Seigneur. Et ce dimanche-là, voilà que le Saint-Esprit met une pensée sur notre cœur.
Toutes les semaines d'avant, j'étais prêt. Et tu m'as rien donné. Et ce jour-là,
qui est maître? Qui est le boss? Alors on peut se mettre en réserve, dire non, c'est pas possible, c'est la chair, c'est pas spirituel. Et tourner dans notre désert pendant 40 ans. Tu peux passer, je sais tout, j'en suis. Un dernier exemple. Non, je dirai tout à l'heure. Pourquoi je marque principe de Dieu, Luc 16, 10. Si nous voulons gravir l'Himalaya, il faut que nous acceptions les leçons du Seigneur. Dieu sera le meilleur pédagogue pour chacun d'entre nous.
Amen. Amen.
Jamais il ne nous fera vivre des choses que nous ne sommes pas capables de supporter. Si le Seigneur m'avait dit, Benoît, tu rentres chez toi, tu restes une semaine couché et tu manges des nouilles faites sur des excréments, je dis, Seigneur, je suis pas prêt. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à faire ça. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Mais le Seigneur va chaque fois se placer à notre niveau pour nous attirer à son niveau. Et le principe, il y a un principe de Dieu que Dieu nous a donné en Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. Si donc, et c'est le cadre de la méditation, enfin de l'exhortation, si donc vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc là, il parle d'un point de vue des finances. Mais c'est un principe spirituel. C'est que avant que le Seigneur nous donne de grandes choses, et quand on dit Seigneur, on veut un renouvellement spirituel, on aspire à des grandes choses, n'est-ce pas? Dieu entend? Est-ce que vous croyez que Dieu nous entend?
Oui.
Et il nous exauce. Ah bah non, tu peux pas dire ça, Benoît. Ben si, il commence à nous exaucer parce qu'il commence à nous préparer à ça.
Amen.
Et avant de prêcher à 3000 hommes avec feu, il va vous dire, bah, prêche avec feu à 10 personnes. Seigneur, je veux que les malades soient guéris. Ah, tu veux que les malades soient guéris? Moi aussi. Mais oui. Parce que c'est pas nous qui vraiment inventons les choses de Dieu, c'est lui qui le veut. Il dit, bah, moi aussi. Alors moi, je te propose, c'est que tu ailles voir ton voisin et que tu lui dis que Jésus peut le guérir.
Oh non, Seigneur.
Ben oui, mais c'est ça. Un jour, il y avait un... C'est une histoire qu'on m'a racontée. Je sais plus, il y avait un pasteur de visite dans une église. Et c'est ça l'avantage quand on est pasteur de visiteur, on peut dire tout n'importe quoi, après on part. Bon, là, c'était pas tout n'importe quoi. En l'occurrence, le frère rendait témoignage, et puis dans ses témoignages, il expliquait que Jésus avait guéri, qu'il s'était passé ça, ça fortifie toujours l'église, oh c'est super et tout. Alors il y a un frère, plein de bonne foi, oh pasteur, c'est ça qu'il nous faut! Il faut que Jésus guérisse au milieu de nous! Je suis tout à fait d'accord, frère. Amener les malades? Bah oui. On va pas guérir des gens qui sont pas malades. Seigneur, on veut que les gens ils connaissent l'évangile, qu'ils convertissent. Bah, pas l'heure du Seigneur. Alors qu'on dit Seigneur, on veut vivre de renouveau. Alléluia. Seigneur, je veux prophétiser. Dans ton cœur? Il est probable que Dieu veut aussi se servir de toi, mon frère, toi, ma sœur, par un don prophétie. Mais avant ça, il va t'apprendre à ouvrir ta bouche pour le louer et le prier.
Amen, amen.
Parce que celui qui apporte quelque chose à la part du Seigneur, ça travaille tellement déjà dans son cœur que s'il n'a déjà pas cette spontanéité à ouvrir sa bouche, le jour J, il sera encore plus coincé, quoi. Avant d'attaquer une piste noire, on apprend sur les pistes. Alors, je sais pas les blanches, mais je crois que c'est les vertes, c'est les premières. Les petites, quoi. Voilà, après, on attaque les rouges, les noirs. Mais au début, on attaque la petite, quoi. Si nous voulons que l'inspiration nous vienne pour les dons spirituels, il nous encouragera à la prière. Si nous voulons être un sujet de bénédiction pour que Dieu se serve de nous pour guérir les malades, il nous invitera certainement d'abord à aller vers eux. Si nous voulons que le Saint-Esprit vive pleinement dans notre cœur, Seigneur, je voudrais tellement avoir cette intimité, je voudrais tellement recevoir... Le Seigneur nous invitera d'abord à avoir une intimité à la maison et à chercher sa face. Parce que ce n'est pas en 5 minutes de parlotte avec Dieu que le Seigneur dépose des choses sur notre cœur. Si nous voulons vivre de grandes choses, alors le Seigneur va nous éprouver sur les petites.
Amen. Amen.
Si nous ne sommes pas capables d'obéir à une chose simple, le Seigneur ne nous confiera pas des grandes. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la notion de l'obéissance. Si tu veux bien passer, l'image d'après. C'est que l'inspiration est nécessaire, mais l'obéissance aussi. Et c'est l'exemple que je voulais vous donner, que j'hésitais tout à l'heure à vous donner. J'ai entendu plusieurs fois, ça m'est arrivé aussi. En fait, je ne l'aurais pas dit si ça ne m'était arrivé qu'à moi, mais j'ai entendu 2-3 fois ce genre de témoignage. Je me dis, Seigneur, serre-toi de ma bouche, s'il te plaît, inspire-moi. Puis le temps passait. Et tac, ce jour-là, le Seigneur place quelque chose sur notre cœur.
Oui.
Et on n'a rien dit.
Oui.
Oh, Seigneur, pardon. Une fois, ça marche. Deux fois ça marche. Et après on connaît un temps de désert. Je ne dis pas que c'est systématique. C'est pour ça que l'expérience ne va pas prévoir. Mais si on est inspiré et qu'on n'obéit pas, le Seigneur me dit ok, tu me demandes un truc, mais en fait le jour J, t'es pas prêt. Eh ben, retourne au désert. Si vraiment c'est le désert qui te donne de l'aspiration, alors je vais t'envoyer au désert. Parce qu'au jour de la bénédiction, tu refuses, tu lâches, tu te dégonfles. Alors retourne au désert. Il se peut que dans nos vies, nous soyons dans une situation de blocage, de résistance, de non-épanouissement, parce que le jour où le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose, on dit non ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça que je le conçois, c'est pas comme ça que je le voyais, c'est pas comme ça que moi je croyais que tu interviendrais. Il y a un homme comme ça, vous savez, Naaman. Il voulait être guéri. On lui dit, ah, mais s'il va voir le prophète, il va te guérir. Ah bon? Alors il y va. Il dit, oh, il envoie une lettre. Je viens, guéris-moi. Alors le roi, il reçoit ça. Il dit, mais je suis qui, moi, pour me demander ça? Envoie-le au prophète. Et le prophète lui envoie un message. Il dit, Naaman, oh, grand serviteur, gna 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 gna, va te laver dans le ruisseau. Et le mec, il est vexé comme un pou.
Vexé comme un pouille. Oh, mais moi, je pensais que le prophète viendrait vers moi littéralement, hein, qu'il agiterait sa main devant, qu'il me saluerait, qu'il agiterait sa main devant moi, que je serais guéri. Est-ce que les eaux de mon pays ne sont pas aussi pures que les eaux de leur pays? Et voilà qu'il rebrouche chemin, vexé comme un pou, parce que lui pensait que c'était comme ça que ça devait se passer. Qui est le boss?
C'est Dieu, amen.
Alors il y a des hommes sages qui sont allés lui parler, tu sais, Naaman, si Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Comme la plus forte raison, il te demande une simple chose, obéis. C'est pas dit comme ça, mais c'est la substance. Naaman y va. On comprend qu'il y va un peu de contre-cœur, mais bon. Il doit se dire, bon, j'ai pas fait autant de kilomètres pour rien. Il va se laver. Et il est guéri.
Amen.
Et il reconnaît la grandeur de Dieu. Après, il va rencontrer le prophète. Après, il y a une belle rencontre qui se fait. Mais acceptons l'obéissance. Apprenons,
amen,
non,
amen,
pas à vouloir vivre ce que nous on veut vivre, mais apprenons à vivre ce que le Seigneur veut nous faire vivre.
Amen.
Si nous voulons monter sur la montagne de l'Éternel, acceptons sa pédagogie pour que nous allions,
alléluia,
étape par étape. Et le Seigneur, dans cette semaine-là, c'est certain, c'est une certitude. Si nous voulons retrouver des choses vivantes, vivaces, comprenez l'expression, stimulantes, enthousiasmantes avec le Seigneur, acceptons sa pédagogie.
Amen.
Acceptons sa mise à l'épreuve. Acceptons que Dieu nous apprenne à vivre en dehors de nos limites. Acceptons de faire tomber nos cloisons que nous avons en fait établies à Dieu. Acceptons que lui nous apprenne les choses en haut plutôt que nous lui apprenons ce qu'il doit faire. Apprenons à marcher sur le chemin que lui propose.
Alléluia.
Et Jésus a été très clair dès le départ. Étroite est la porte. Et resserrer le chemin, ça ne nous laisse pas une grande marge de manœuvre, pardonnez-moi. Notre orgueil, on doit le mettre de côté. Nos conceptions, on doit les mettre de côté. Ça élargit les chemins. Ah oui. Et c'est pour ça que même... Bon, le temps passe. Mais Jésus nous a prévenu qu'à la fin des temps, les gens se donneront une profusion de docteurs cherchant ce qu'ils veulent eux-mêmes entendre. Et il y a des gens comme ça, ils cherchent à élargir le chemin de Dieu parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. Et Jésus a dit non. Tout étroit le chemin de Dieu. Et dans ce chemin étroit, il n'y a pas la place pour nous-mêmes. D'ailleurs, Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, fais de moi l'instrument que tu veux que je sois.
Amen.
Seigneur, rends-moi obéissant, même si je ne comprends pas, même si je ne saisis pas. Seigneur, je veux vivre dans cette humilité, dans cette simplicité. Et tu peux remonter pour remonter sur les quatre points. Et c'est là qu'en s'examinant, on retrouve toujours ces mêmes logiques. L'humilité, la prière et la foi, mes bien-aimés, si nous ne prenons pas le temps dans la prière, nous ne recevrons rien du Seigneur, ou si peu. Il n'y a pas de miracle. J'ai encore 2 minutes pour vous donner un témoignage. C'est un frère. Il y a quelques temps, on avait montré des images, vous savez, de ces enfants en Inde qui intercédaient. Ils étaient là dans la prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une petite vidéo. Et on était émus. On disait, mais comment des petits mouchous comme ça, ils connaissent tant de visitations. Et récemment, c'est un frère qui est parti en Inde. Il est revenu. Il a dit, faut le croire pour le voir. Petit bout de chou des 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui passe 2 à 3 heures dans la prière, avec la visite et intercéder. On peut prendre des photos, c'est pas ça qui va les déranger, ça va pas les perturber. Moi, je suis humilié, personnellement. J'ai pas 8 ans, mais je sais pas passer 3 heures dans la prière non-stop. Ah oui, j'ai un mauvais pasteur, oui, je vous l'accorde. Mais l'essentiel n'est pas de savoir où on en est sur la montagne. Mais est-ce qu'on veut vraiment y aller?
Alléluia.
Et si on accepte la pédagogie du Seigneur, il nous fera gravir les étapes.
Amen.
Ne regardons pas ce que nous sommes, regardons à l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Amen. Ne laissons pas le diable nous dire, mais c'est comme ça depuis toujours et ça ne changera pas, c'est faux. On l'a chanté, tout peut changer, n'est-ce pas? On avait un chant comme ça. Le Seigneur nous aide à chercher sa volonté. Indépendamment de ce que nous on conçoit, on calcule, on croit que n'enfermons pas le Seigneur dans une boîte de quelques centimètres carrés qui est de notre tête et soyons obéissants pour les œuvres juste que Dieu a préparées d'avance. Amen.